de ventre où poser ma tête pour étouffer la petite bête qui me ronge les pensées. Un tombeau de solitude que l'on garde par habitude, un petit morceau d'inquiétude. Je n'ai personne où aller, et chaque recoin du monde est là pour me le rappeler, seconde après seconde. Je n'ai personne où aller. We'll be right back.
problème de votre radio, c'est quand on écoute, et on est coupé. Et on l'entend très mal.
Ouais, je sais pas, t'as qu'à acheter un autre poste si ça coupe.
Non, le poste est très bon. C'est vos émetteurs qui le sont pas.
Ah ben non, le poste est pas bon, parce que c'est pas l'émetteur qui doit faire que ton poste comprend, c'est le poste normalement qui doit comprendre.
Ah, écoute, avec certaines autres radios que la vôtre, ça marche très bien.
Ben ça veut dire que ton poste comprend les autres radios, mais qu'il ne comprend pas celle-ci.
Vous écoutez Principe Actif à Évreux 102.4, dans le sud de l'Eure 95.9 et partout ailleurs sur principeactif.net.
Vous écoutez RFI, il est 6h à Paris, 4h temps universel. Avec tout de suite un nouveau point sur l'information avec vous Gaëtan Plenet. Bonjour Gaëtan.
Bonjour Paul, bonjour à tous.
Et à la une, un accord européen trouvé pour durcir la politique migratoire de l'Union européenne.
Encore un vote à venir, puis les États membres pourront créer à l'étranger des centres pour y envoyer des migrants illégaux. On y revient dès le début de cette édition. On va faire aussi un point sur la situation au Proche et au Moyen-Orient. Des frappes israéliennes à nouveau cette nuit dans le sud du Liban où le Hezbollah dit avoir visé également des positions israéliennes. Compte tenu de cette situation, l'Iran, allié du Hezbollah, suspend de son côté ses propres négociations avec les États-Unis. Dans ce journal également, un nouveau gouvernement au Sénégal, sans le pastef ou presque, après le limogeage du Premier ministre Ousmane Sonko. Et puis on va parler de ce livre qui sort aujourd'hui en France, La Légende, c'est signé Boualem Sansal qui en profite pour régler ses comptes. Il faudra encore un ultime vote du Parlement européen et des États membres dans les prochaines semaines, mais ils ont d'ores et déjà franchi hier soir un pas de plus vers un durcissement de la politique migratoire de l'UE. Un accord a été trouvé, il rend possible la création de ce qu'on appelle des hubs de retour, des centres installés en dehors des frontières européennes et dans lesquels envoyer des migrants dont la demande d'asile a été refusée, les envoyer là-bas, même si ce n'est ni leur pays d'origine, ni là où ils voulaient vivre. Les discussions n'ont pas été faciles ces dernières semaines et malgré ce compromis, l'idée continue de diviser. Les explications depuis Bruxelles de Laxmi Lota.
La présidente du Parlement européen se félicite du compromis trouvé. L'accord conclu permettra un retour plus rapide et plus harmonisé des migrants, écrit Roberta Metsola. Dans les faits, les fameux hubs de retour sont autorisés. Critiqués par les partis de gauche et de nombreuses ONG, ils permettront de renvoyer les migrants en situation irrégulière vers des pays tiers si leur pays d'origine refuse de les accueillir. Le texte précise, les accords se feront uniquement avec des partenaires respectant les droits de l'homme. Des pays comme le Rwanda, l'Ouganda ou encore l'Ouzbékistan étaient cités lors des discussions précédentes. Il y aura également la mise en place d'un ordre de quitter le territoire au niveau européen. Un migrant en situation illégale sera inscrit dans le système Schengen et pourra être renvoyé depuis n'importe quel État membre. La durée maximale de détention de ces migrants est désormais de 24 mois au lieu de 6 mois auparavant. Une eurodéputée écologiste dénonce un accord honteux. Le groupe des socialistes parle d'expulsion à la manière d'ICE, la police de l'immigration américaine. Laxmi Lota, Bruxelles, RFI.
Au moins 9 morts cette nuit, c'est le dernier bilan en Ukraine après de nouvelles attaques russes. Dans la capitale, Kiev notamment, où 4 personnes ont péri, plusieurs quartiers touchés. Les autorités locales évoquent des frappes de missiles balistiques. D'autres frappes ont touché l'est du pays, notamment les villes de Kharkiv, mais aussi de Dnipro, où là ce sont 5 personnes qui ont été tuées, 25 autres au moins ont été blessées. Israël n'attaquera pas le Hezbollah et le Hezbollah n'attaquera pas Israël, écrivait hier Donald Trump, affirmant en avoir reçu la confirmation de la part des deux parties. Raté, le mouvement chiite libanais revendique une frappe tôt ce matin contre une cible israélienne dans le sud du Liban. Il y en avait eu d'autres hier soir, tandis que l'agence libanaise ANI évoque, elle, des frappes israéliennes nocturnes dans plusieurs villages de la région. Le tout alors que des responsables israéliens et libanais doivent se rencontrer aujourd'hui et demain à Washington pour une nouvelle session de pourparlers, avec pour objectif notamment de prolonger le cessez-le-feu, extrêmement fragile, on l'aura compris. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est d'ailleurs réuni à ce sujet hier soir à la demande de la France, alors qu'Israël étend ses opérations dans le sud du Liban. Et alors que la FINUL, la force intérimaire des Nations Unies dans le pays, partira à la fin de l'année, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, recommande, étant donné le contexte qu'on évoquait, de maintenir là-bas, malgré tout, des troupes onusiennes. C'est ce qu'il dit dans un rapport que nos confrères de l'agence France Presse ont pu consulter. C'est pour, dit-il, faciliter la désescalade et le dialogue et soutenir aussi les forces armées libanaises. En tout cas, cette situation au Liban et la poursuite donc des frappes israéliennes malgré la trêve, eh bien, elle a poussé l'Iran à suspendre hier ses propres négociations avec les États-Unis, menaçant au passage d'ouvrir de nouveaux fronts. Ce n'est pas la première fois que Téhéran réclame la fin de la guerre en Iran et au Liban. Pour Sébastien Boussois, expert du Moyen-Orient et directeur de l'Institut géopolitique européen, américains et iraniens sont tout simplement de moins en moins alignés.
On se rend compte depuis maintenant plus de 3 mois que les Américains et les Israéliens n'ont pas la même stratégie, ou n'ont pas les mêmes objectifs. Parce qu'on a un État hébreu qui ne veut aucune négociation et la destruction de la République islamique, et un président américain qui cherche à se carapater et sortir de ce bourbier pour s'en sortir et pour se préparer pour la Coupe du Monde, mais également pour les élections de mi-mandat en novembre. Aujourd'hui, on voit à quel point l'Iran constitue toujours une véritable puissance de nuisance. On voit bien aujourd'hui que ce vers quoi on s'achemine, c'est une forme de négociation, parce que les Occidentaux, c'est-à-dire les Américains et les Israéliens pour faire simple, ne sont pas parvenus à renverser la République islamique qui aurait eu un véritable impact sur l'ensemble, si je puis dire, des tentacules de la pieuvre chiite, et que du coup on est dans une situation où on s'achemine donc vers un mauvais accord plutôt qu'à la fois un effondrement de la République islamique.
Des propos recueillis par Sofia Katsenkova. En tout cas, Donald Trump affirme, lui, que les discussions avec la République islamique continuent à un rythme rapide. Des informations à prendre évidemment avec prudence, alors qu'on annonce depuis des jours un possible protocole de paix imminent entre les États-Unis et l'Iran, et qu'il n'a toujours pas vu le jour, alors que les points de discorde sont nombreux, notamment sur la question du nucléaire iranien ou encore sur celle du détroit d'Hormuz, un détroit toujours en grande partie paralysé par l'Iran, ce qui perturbe le commerce de carburant dans le monde entier. Le Japon en fait notamment les frais, mais peut-être plus pour longtemps, puisqu'après un échange avec la première ministre japonaise, le président iranien Massoud Pezeshkian a promis hier que son pays allait faciliter le passage du détroit pour les navires japonais. Là aussi, c'est une information qui mérite qu'on prenne un peu de recul, hein, car la reprise des livraisons de pétrole en direction de Tokyo ne dépend pas que de l'Iran. Mais cette annonce reste quand même une potentielle bonne nouvelle, dirons-nous, pour une économie japonaise en souffrance à cause de cette crise au Moyen-Orient, Aurélien de Vernois.
C'est le symbole de la dépendance du Japon aux hydrocarbures du Moyen-Orient. Depuis un mois, c'est en noir et blanc que sont imprimés les emballages d'une célèbre marque de chips locale. En cause, la pénurie de nafta, un dérivé du pétrole utilisé dans les encres de couleur. Mais c'est bien toute l'économie japonaise qui a pâli depuis la fin du mois de février, avec une inflation en hausse, particulièrement dans l'énergie, forçant la chef du gouvernement à annoncer la semaine passée un plan de soutien à la population de 19 milliards d'euros. Le cours du yen a lui aussi faibli, contraignant la Banque du Japon à injecter 63 milliards d'euros depuis avril pour soutenir la monnaie. Alors même si l'Iran tend la main à Tokyo, les autorités japonaises réfléchissent à des alternatives. Début mai, une livraison de pétrole russe est arrivée dans le sud-ouest du pays pour la première fois depuis le début de la crise. Le gouvernement japonais a également ouvert des négociations pour un accord avec le Mercosur, la zone de libre-échange sud-américaine comprenant plusieurs producteurs de pétrole.
Aurélien de Vernois du service économie de RFI. Le Japon, où une tempête tropicale a frappé le sud du pays, 9 blessés et plus de 47 000 foyers privés d'électricité. Ça perturbe aussi fortement le transport aérien, alors que la tempête se dirige maintenant vers le nord du Japon. La journée électorale a été globalement calme hier en Éthiopie. Élections législatives pour élire des députés qui, je le rappelle, désigneront eux ensuite le Premier ministre, Abiy Ahmed est candidat pour un nouveau mandat. L'opposition dénonce un scrutin inéquitable. D'après la commission électorale, 143 bureaux n'ont pas ouvert hier en raison de problèmes de sécurité. Le Sénégal a un nouveau gouvernement. 11 jours après le limogeage du Premier ministre Ousmane Sonko, son remplaçant Amadou Alaminou Mohamed Lo a composé une équipe de 30 ministres, mais sans le PASTEF ou presque, le parti d'Ousmane Sonko, qui dit ne pas participer à cet exécutif en raison de points de désaccord. Lisa Westerhoff, la rupture entre le président Bassirou Diomaye Faye et son parti d'origine se clarifie.
Pas de poids lourd du PASTEF, exit également les proches de l'ancien Premier ministre Ousmane Sonko qui occupait les ministères de l'Intérieur, de la Justice et du Pétrole, entre autres. Seuls 3 ministres membres du PASTEF restent à bord, parmi lesquels Yankoba Diémé à la tête des forces armées. Pour le reste, c'est une équipe de technocrates et de personnalités politiques alliées du président Bassirou Diomaye Faye qui a été choisie. Cher Diba, par exemple, ministre des Finances, qui a assisté à toutes les réunions avec le Fonds monétaire international, est reconduit. Alors que le Sénégal fait face à une dette colossale, il voit même ses prérogatives élargies avec le portefeuille de l'économie. El Hadj Abdourahmane Diouf, qui s'est très tôt publiquement positionné en faveur du président dans le conflit qui l'opposait à Ousmane Sonko, devient ministre du Pétrole. Enfin, à l'intérieur, exit l'avocat d'Ousmane Sonko, c'est Mouamadou Makhtar Cissé qui prend le poste. Ministre de l'Intérieur sous Macky Sall, c'est lui qui a organisé la présidentielle en 2024. Un gouvernement qui veut serrer les rangs avec 7 ministres alliés reconduits et toujours aussi peu de femmes, 4 seulement. Un gouvernement de mission et d'obligation de résultat, a affirmé le Premier ministre Alaminou Lo hier soir, mais fragilisé déjà par cette défection du parti qui a mené Bassirou Diomaye Faye au pouvoir. Léa Lisa Westerhoff, Dakar, RFI.
Et un président de la République qui ne s'entend pas avec le PASTEF pour la constitution d'un gouvernement est un président qui refuse d'appliquer le résultat des urnes, a immédiatement réagi le député PASTEF Guy Marius Sagna, faisant référence aux 130 sièges de députés occupés par le PASTEF au Parlement sur les 165 sièges. Vous pouvez réagir à ce nouveau gouvernement sénégalais tout à l'heure sur RFI. Vous aurez la parole dans Appel sur l'actualité avec Juan Gomez. Rendez-vous après le journal de 8h, heure de Dakar. Nous sommes le mardi 2 juin. C'est aujourd'hui que sort en librairie en France le nouveau livre de Boualem Sansal. Dans ce récit intitulé La légende, qui paraît chez Grasset, l'écrivain franco-algérien raconte son année de prison en Algérie et il règle ses comptes, notamment avec le pouvoir algérien, mais aussi avec son ancienne maison d'édition, Gallimard. Les détails avec Sophie Torlotin.
La légende, c'est le surnom donné à Boualem Sansal par ses co-détenus de la prison de Coléa en Algérie. L'écrivain explique vouloir se réapproprier son récit, sous-titré d'ailleurs « Libre méditation d'un prisonnier encombrant ». Et ses méditations alternent entre chroniques du quotidien en prison, divagations poétiques ou aphorismes sur la liberté. C'est un livre de combat, prévient Boualem Sansal. Le nom du président algérien, Abdelmadjid Tebboune, accusé de l'avoir pris en otage, y est cité une trentaine de fois. Mais l'écrivain règle aussi d'autres comptes, avec la gauche et la France insoumise, qu'il accuse de collusion avec l'islamisme. Et avec Antoine Gallimard, qui, dit-il, ne lui a donné que 8 jours pour trouver un autre appartement, après l'avoir logé gracieusement pendant 3 mois à son retour en France. Ne trouve grâce à ses yeux que ses nouveaux bienfaiteurs, comme Arnaud Lagardère ou Bruno Retailleau, l'ancien ministre de l'Intérieur, partisan d'une ligne dure avec Alger. Ce livre, écrit en 40 jours, aura manqué de la vision d'un éditeur. Ça aurait dû être Olivier Nora, évincé par Vincent Bolloré. Une preuve parmi d'autres, le nom de Christophe Glaise, journaliste français prisonnier en Algérie, y est par deux fois mal orthographié.
Sophie Torlotin. Et puis en France, toujours, l'Élysée annonce un hommage national demain aux Invalides après la disparition d'Edgar Morin. Le sociologue et philosophe est mort vendredi. Il avait 104 ans. Un soldat de la résistance, militant et affranchi, un penseur du siècle, lui avait notamment rendu hommage le président français Emmanuel Macron, à qui présidera demain la cérémonie aux Invalides. Il est 6h12 à Paris.
Gaëtan Plenet.
On est ensemble encore pour une petite vingtaine de minutes. Après ça, ce sera le retour de l'actualité africaine. Mais d'ici là, on sera au Royaume-Uni. On va voir pourquoi un projet de loi censé simplifier le parcours de soins des patients, une belle idée sur le papier, ne fait pas l'unanimité. En cause notamment l'implication d'une entreprise américaine spécialisée dans l'intelligence artificielle et utilisée notamment dans des opérations de surveillance. L'acteur Simon Abkarian sera notre invité culture. C'est lui qui joue le rôle du général de Gaulle dans un film qui sort demain en France. Et puis c'est difficile, c'est vrai, mais c'est possible. Arrêtez de fumer, on va en parler dans le Conseil Santé du jour. Mais d'abord, on part près d'une frontière, la plus longue entre l'Union européenne et la Russie, celle qui sépare le pays de la Finlande. Itäraja, c'est son nom, frontière de l'Est, 1340 kilomètres, une frontière fermée depuis novembre 2023. Alors à l'époque, en quelques jours, plus de 1000 ressortissants russes tentaient de fuir côté finlandais. Et pour Helsinki, aucun doute, le Kremlin avait orchestré délibérément cette pression migratoire en représailles à son adhésion à l'OTAN. D'où cette décision de ne plus permettre le moindre passage. Ça fait presque 3 ans maintenant que ça dure. Reportage non loin de cette frontière, côté russe à Viborg, où les habitants ont dû apprendre à faire avec. Anis El Jabri.
Un vieux marché couvert sous des voûtes gothiques au milieu d'un centre historique aux allées étroites, des montagnes de produits alimentaires sur les étals, pas mal de café, thé, bonbons et chocolat et, particularité de Viborg,
j'ai du café mais pas que du finlandais, j'ai aussi de l'allemand et du suédois, c'est quand même mieux, la qualité est contrôlée.
Avant 2023 et la fermeture de la frontière, les produits arrivaient en quelques heures de Finlande, ils passent désormais via l'Estonie, trajet plus long, plus incertain, plus coûteux. Mais ici, personne n'y a renoncé, dit Elena Sokolova, la directrice générale du journal local.
J'aimerais retrouver toutes les saveurs d'il y a 5 ans. J'aimerais manger une truite typiquement finlandaise. Mais pour ce qui est des produits et des fabricants, je crois que c'est surtout une question de nostalgie.
La moitié de la population de cette ville de 74 000 habitants parle finnois. Les mariages russo-finlandais sont nombreux, mais entre les deux pays, les conversations depuis un moment évitent sciemment l'actualité.
Les Finlandais et les Russes qui vivent là-bas, que je connais, je sais comment ils voient le monde. Et si nous avons des différentes opinions, j'évite de les mettre sur la table.
thought that I was someone you could abuse. Didn't think I had no feelings. Well, I do.